je peux pas dire que je viens ici en tant que spécialiste du secret. Je ne suis pas spécialiste du secret au sens où je n'ai pas écrit de livre théorique sur la dimension du secret. Des spécialistes du secret, il y en a. Vous les connaissez sans doute. On parle par exemple de Anne Hanselin Schutzenberger, c'est plus difficile de dire la deuxième partie de son nom. François Vigouroux, ou bien sûr Nicolas Abraham, Maria Torok, qui ont fait des choses formidables sur, avec cette invention de ce terme magnifique qui s'appelle la crypte, qui serait une façon de dire que chacun de nous, quand il y a un secret de famille qui circule de façon transgénérationnelle, le garde, j'allais dire presque précieusement, dans une crypte, mais c'est-à-dire s'il est là, vivant, toujours prêt à surgir, mais bien à l'abri au plus profond de nous-mêmes. Je travaille et je travaille toujours avec Serge Tisson, qui est aussi qui a longtemps travaillé sur le secret avant de travailler sur l'image. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que nous travaillons ensemble depuis 30 ans et que, curieusement, nous étions concernés, lui de façon plus théorique par la question du secret, moi de façon plus intime, mais que nous sommes retrouvés sur les deux versants, l'écriture théorique sur le secret, l'écriture romanesque, qui a été ma façon à moi d'aborder cette question parce que je l'ai traversé comme sujet avant de devenir analyste, avant de devenir écrivain, et qu'au fond je peux témoigner, ce qui est finalement assez précieux, sur les trois plans, je peux entendre ce que j'ai fait avec moi-même, avec mon oreille d'analyste, et puis je peux comprendre le travail que j'ai fait en tant qu'auteur, et puis je peux aussi saisir le trajet que j'ai fait en tant qu'homme, en tant que sujet, par rapport à ce secret de assez lourd, sous lequel, je dirais, sous lequel j'ai grandi, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. Je crois que j'ai un peu allongé l'âge dans le roman, mais enfin, c'était quand même très tardivement que j'ai su ce qu'il en était de l'histoire de ma famille et de ma propre histoire et de mes origines. Alors, ce qui m'intéressait, par exemple, ce qui m'intéressait dans le travail de Tisseron, par exemple, puisqu'on parlait d'inscription, c'est comment, dans un livre que j'adore, de lui, qui a été son premier roman, c'est Tintin chez le psychanalyste, ça n'est pas sérieux comme titre, mais c'est un livre extrêmement sérieux qui montre comment, à partir du contenu artistique d'une bande dessinée, c'est pas du tout de la psychanalyse appliquée à la manière Proust faisait des longues phrases parce qu'il était asthmatique et que ça lui permettait de respirer. C'est pas ça. C'est pas du tout à partir de la connaissance d'une personne que Tisseron a fait son travail sur Hergé. C'est sur sa production. Et il a découvert des choses qui ont été confirmées plus tard, ce qui est très précieux parce que s'il les avait su avant, on aurait pu supposer que, mais non. Autrement dit, dans l'œuvre même était inscrit quelque chose du secret de famille sous lequel Hergé avait grandi lui aussi, et je trouve ça très joli de le déchiffrer comme on pourrait le déchiffrer par exemple dans le psoriasis de ce bébé, un non-dit qui se serait inscrit comme ça sur sa peau. Alors, ce qui nous intéresse bien sûr, et peut-être ce qui vous intéresse vous particulièrement ici, c'est l'impact, c'est l'effet que peut avoir un secret sur un enfant. Alors comme je suis un ancien enfant qui a subi cet impact, je peux essayer de vous dire, à la lumière du livre que j'ai écrit, les effets que ça a eu et que ça aurait pu avoir sur moi si en chemin je n'avais pas rencontré la psychanalyse. Quand même, c'est évidemment quelque chose qui a été fondamental dans mon changement de position par rapport à ce que le secret de famille aurait pu provoquer dans ma destinée. Alors, peut-être un petit quelque chose sur le fait que mon intérêt pour le secret, avant de savoir ce qu'il en était, m'avait amené enfant à imaginer quand même de façon déjà romanesque, de façon d'enfant, que de très grands secrets circulaient dans ma famille. Mais je le racontais à mes camarades comme un enfant raconte qu'il est le fils caché d'un roi. C'est cet endroit-là. Mais le thème du secret était déjà très présent dans mon enfance. Et puis, mes premières lectures, d'ailleurs, ont été imprégnées par ce thème du secret, puisque j'ai, comme les gens de ma génération, enfin j'espère même que ceux de la génération suivante les ont lus, mais ma première passion littéraire n'a pas été ni Proust ni Balzac, mais Enid Blyton, le Club des Cinq. Et le Club des Cinq que j'ai dévoré, ça a été mes premières lectures, mon premier plaisir de lecture. Ce que je cherchais avec enthousiasme dans chaque épisode du Club des Cinq, c'est le passage secret, parce que ce qui était formidable dans les livres de Blyton, c'était qu'à un moment donné, il y avait toujours une pendule qui pivotait, un miroir qui s'ouvrait sur un passage secret qui menait à la terrible, au terrible repère des contrebandiers, parce que ça allait guère plus loin. Hein. On est très loin de ce qu'on voit aujourd'hui dans Harry Potter. Hein. Mais quand même, cette ouverture sur le secret, sur le passage secret, je l'ai compris plus tard, était quelque chose qui me fascinait, qui a fasciné beaucoup d'enfants, il faut bien le dire, mais en ce qui me concerne, c'était tout à fait... c'était ces passages-là que je cherchais avec beaucoup de passion. Alors, plus tard, une fois qu'il y a eu cette révélation, je vous parlerai du livre dans un deuxième temps, mais une fois que cette révélation m'a été faite, heureusement, faite non pas comme dans le roman par la magnifique aide et par l'amour transcendant de Louise, mais par la gaffe d'un cousin, tout simplement, ce qui est beaucoup moins romanesque et que je n'ai pas mis évidemment en scène dans le roman de cette façon-là. Mais je dis souvent, rendons gloire aux gaffeurs qui sont de grands serviteurs de la vérité, et s'ils n'étaient pas là parfois, beaucoup de choses nous échapperaient. Et c'est en tant que psychanalyste que je dis que la gaffe, c'est évidemment l'expression d'une vérité qui doit se dire impérativement et qui vous échappe. Alors parfois une vérité méchante, parfois quelque chose qui ne doit pas être dit, il y a toujours quelqu'un pour dire oh, oups, comment dire aujourd'hui, ça m'a échappé. Mais ce qui vous a échappé, évidemment, c'est la vérité qui, d'une certaine façon, demande toujours à sortir. C'est quelque chose qui pourrait laisser penser que la vérité a une force propre, bon, ce qui n'est pas le cas, mais tout de même, on a vraiment le sentiment, quand un secret s'installe dans une famille, dans une communauté, que l'image la plus propre à en rendre compte, c'est celle d'une source dont on empêcherait le jaillissement à certains endroits et qui jaillirait à beaucoup d'autres endroits sous forme de ruisselets, qui sont des indices. Et c'est comme ça que le secret, finalement, finit toujours par sourdre, par suinter, comme on dit, par transpirer. C'est toujours de cet endroit-là. C'est souvent des images liquides pour parler du jaillissement du secret. Et évidemment, dans mon cas, ça a été cette gaffe qui m'a permis d'accéder au secret. Et je crois que mon entrée en analyse a été vraiment contemporaine ou très proche dans le temps de la révélation de ce secret dont, dans un premier temps, j'ai été évidemment très embarrassé. Très embarrassé et en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure, avec ce sentiment complexe et apparemment paradoxal que j'ai ensuite entendu exprimer par beaucoup de mes analysants, comme on dit, c'est que, en même temps que j'étais bouleversé et saisi par cette vérité absolument nouvelle, une petite voix au fond de moi disait, mais au fond, je l'ai toujours su. Et ça, c'est assez systématique dans les révélations de secrets de famille ou de non-dit absolu, c'est quelque chose est passé tout de même. Et là, c'est quelque chose qu'on pourra essayer ensemble de comprendre, c'est par où ça passe, mais ça passe. Alors évidemment pas de façon liquide, comme je l'ai expliqué avec cette métaphore, mais ça passe. L'effet de ce secret sur moi a fait que ensuite, dans mon travail, après mon analyse, quand j'ai commencé à maîtriser un petit peu la théorie et la pratique psychanalytique, j'ai eu envie de m'intéresser à tout ce qui touche au secret, mais au secret d'une façon plus ludique. C'est vrai que j'admirais beaucoup Serge Tisseron d'avoir osé écrire en tant que psychiatre et psychanalyste un Tintin chez le psychanalyste qui allait faire sourire dans un premier temps. Je crois qu'il fallait oser le faire. Et je me suis dit qu'il y avait quand même des sujets comme ça, comme la chanson par exemple, qui est vraiment un sujet que les psychanalystes ont très peu abordé. Déjà la musique dite classique ne les a pas complètement enthousiasmés, sous le prétexte fallacieux que Freud prétendument était anti-musicien, ce qui est fou, parce que quand on sait ce que Freud appréciait, c'est déjà la culture d'un mélomane moyen chez nous, mais on attendait tellement plus de Freud, il aurait fallu qu'il découvre toute la musique de son temps, de Berg à Mahler, mais ce qu'il n'a pas fait, mais il paraît qu'il fredonnait le Barbier de Séville, Don Juan, des airs de Carmen, donc quand même, il n'était pas un musicien, comme on l'a dit. Mais la chanson est quelque chose qui m'intéressait. Et comme tous ces phénomènes culturels absolument évidents, la chanson, pourquoi est-ce qu'on aime ça? Parce que c'est joli, parce que ça va de soi, parce que c'est facile. Oui, bon, en tant que psychanalyste, évidemment, on a envie d'aller voir un peu plus loin, et au fond de comprendre les secrets du succès de la chanson. Donc c'était mon premier travail écrit, c'est-à-dire comprendre ce qui faisait que personne ne passe à côté de la chanson. Et très brièvement, c'est pas notre sujet ce soir, mais je reste pas au plaisir de vous dire deux, trois petites choses sur ce secret-là, qui est que nous parlons justement des expériences prénatales et que l'enfant déjà in utero perçoit quelque chose, la rumeur de l'univers, ce que sera le langage pour lui, ce que sera le monde extérieur, lui parvient sous la forme d'une chanson. Alors ça peut sembler un peu curieux que je le dise comme ça, mais réfléchissez un peu à ce qu'entend un enfant in utero. Une rythmique, évidemment, une rythmique, ça, c'est évident, son cœur, celle du cœur maternel, une ligne de basse, la voix de l'homme, la voix paternelle, qu'il peut différencier de la voix maternelle, qui, elle, lui apporte la mélodie, et quand il arrive au monde, cet enfant, il a déjà quelque chose en lui d'inscrit, de familier, qui est une ligne de basse, une rythmique, une mélodie, il est déjà dans quelque chose de l'ordre de la chanson, il n'y a plus que des mots à mettre sur cette chanson, et les parents ne s'en privent pas, puisque il pratique avec lui ce qu'on appelle le baby talk, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais à un bébé autrement qu'en chantant. Et pour nous répondre, l'enfant gazouille, autrement dit, il chante aussi. Et l'entrée au monde se fait donc en chanson. Voilà, brièvement pour dire pourquoi toute chanson, à partir de ce moment-là, que nous allons connaître, en réalité nous allons la reconnaître, parce que cette forme-là, elle est déjà inscrite en nous avant la naissance, alors qu'évidemment, il ne sera pas même pour la peinture et le cinéma. Sur le plan visuel, l'expérience est beaucoup plus limitée. C'est ce qui explique le pouvoir incroyablement suggestif et évocateur de la chanson qui nous replonge en quelques notes dans toute une période de notre histoire, de notre enfance. Pas seulement de notre enfance d'ailleurs. Quand on dit c'est notre chanson, c'est notre enfance, c'est la première rencontre amoureuse par exemple. Voilà, très brièvement pour la chanson, pour dire qu'ensuite, je me suis intéressé, étant moi-même très légèrement, et parfois même pas très légèrement fumeur, sur la question de ce secret-là aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on se livre à une pratique dont on sait pertinemment qu'elle est dangereuse, risquée, voire suicidaire? Voilà encore un secret que j'ai envie d'aller explorer, toujours sous le haut patronage de mon père spirituel Freud, qui après m'avoir amené sur les sentiers de la chanson grâce à son amour de la musique et son amitié avec Yvette Guilbert, quand même, le fiacre, Madame Arthur, correspondance assidue entre deux. Et puis Freud, bien sûr, pour la question du tabac, j'ai écrit un essai qui s'appelle « Pas de fumée sans Freud », parce que quand même, 20 cigares par jour, Freud, c'est quand même quelque chose. Non seulement ça, mais averti par son médecin que Max Schur, parce qu'on savait déjà que la nicotine aggravait son cancer du palais et de la mâchoire, il a continué à fumer. Lui qui pourtant a analysé tant de pratiques sociales, philosophiques, religieuses, le tabac est resté son point aveugle absolu. Alors j'ai eu l'outrecuidance et la prétention d'essayer d'aller un peu fouiller dans le point aveugle de Freud, et ce que j'ai découvert m'a amené à penser que la pratique tabagique pour tout fumeur répondait après tout aux mêmes critères que au moins les trois grands axes qui m'ont orienté la pratique tabagique de Freud, qui pour être un grand homme n'en était pas moins un homme, et que ce tabac, cet objet tabac, lui servait d'abord d'objet contraphobique, ce que chacun de nous, quand il est fumeur, pourra reconnaître, c'est-à-dire cette façon de se protéger avec un rideau de fumée venu de toute situation un peu angoissante ou nouvelle, ce que Freud alors pratiquait beaucoup. Il était très phobique des relations sociales, il entrait chez Charcot, éminemment salon mondain à l'époque, il allumait une cigarette immédiatement. Et puis, ça c'est la première fonction, je vais très très vite. La deuxième étant l'outil de travail, c'est l'outil de concentration. Bon, on sait que d'abord chimiquement, la nicotine, ça excite un peu les neurones, mais il disait très clairement qu'il avait d'un côté un bol de crayon et de l'autre côté un bol de cigare pour travailler. C'était une évidente, il appelait ça le Arbeitsmittel, la substance de travail, le tabac. Et puis la troisième fonction, qui est la plus compliquée et que je résumerai le plus vite possible parce que ça serait un peu long, c'est la satisfaction de la pulsion de mort, que tout fumeur, d'une certaine façon, pratique à sa façon. C'est-à-dire tout fumeur est un prométhée qui, d'une certaine façon, joue avec le feu en connaissant le risque. Et ce risque, il est dans ce tressage très intime de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, que chacun de nous pratique évidemment, et que la cigarette symbolise d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que la durée de vie d'une cigarette est une sorte d'axe magnifique qui nous mène très directement de la pulsion de vie, du plaisir, à la mort avec l'écrasement de la cigarette, et bien sûr avec le risque qu'elle représente. Voilà, bref, enfin, c'est une façon, non pas mon livre n'est pas du tout un traité pour une méthode pour arrêter de fumer, même ce qui m'ennuie un peu, c'est que parfois des gens l'ont lu en disant que ça leur avait donné envie de recommencer à fumer. C'est vous dire si cette question est complexe. Alors, un secret, vous dire qu'il a fallu beaucoup de temps entre le moment où j'ai découvert, grâce à cette gaffe d'un cousin, ce secret, le moment où mon analyse m'a amené à le travailler, à l'élaborer, et le moment où j'ai décidé, si tant est que j'ai décidé, d'écrire ce livre, ce roman. Je ne pouvais de toute façon l'écrire qu'après avoir fait traverser l'expérience analytique. Je crois que c'est ce qui m'a permis de donner à cette expérience la distance nécessaire. Sinon, je crois que j'aurais fait une sorte de témoignage dans le pathos absolu. Et puis, il fallait aussi du temps, un autre temps que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est 20 ans, jour pour jour, je dirais, après la disparition de mes parents, que l'acte, vraiment, c'est pas un passage à l'acte, c'est un acte, mais qui a mûri très longtemps, d'écrire ce roman, s'est imposé à moi. J'ai beaucoup de raisons conscientes que je peux décrire, qui m'ont amené à écrire ce livre, mais bien entendu, comme toujours, les raisons inconscientes ont été très certainement les plus fortes, et l'inconscient étant un calculateur hors pair, beaucoup plus puissant que nos palmes, nos calculettes électroniques. Il fête les anniversaires d'une façon très sûre, à sa façon, parfois par une éruption de psoriasis, parfois par d'autres choses. En tout cas, il est très très fidèle aux anniversaires, et je crois que je fêtais un anniversaire qui est très intime pour moi, mais qui est lié à la disparition brutale de mes parents, et que cet anniversaire, il fallait que je le fête de cette façon-là. Mais consciemment, c'est pas ça qui m'a poussé à écrire le livre. C'est plutôt cette visite dans le cimetière des chiens dont je parle à la fin du livre, ce lieu incroyable qui est situé dans un lieu tout proche d'une maison que nous avons en Seine-et-Marne, et où nous sommes entrés par effraction, c'est ce qui fait plaisir d'ailleurs, et où nous avons découvert à l'ombre d'un château appartenant à la fille du président Laval, c'est ce que nous ont appris les gens du village, sur un cimetière de chiens. Alors je dis toujours, parce que la fille de Laval, c'est pas de sa faute si elle est la fille de Laval, mais il se trouve simplement quand même que, ayant lu une de ses biographies, je peux quand même dire qu'il y a une ombre noire sur cette personne, sur Josée de Chambrun, qui a été l'ambassadrice de charme de son père auprès des autorités allemandes pendant toute sa jeunesse. Et le président Laval emmenait sa fille dans toutes les rencontres qu'il a eues avec les autorités allemandes, et non pas sa femme, parce que sa fille savait faire un charme formidable. Donc on est quand même dans quelque chose qui la rend pas totalement innocente. Ceci, juste, non pas pour faire procès de la fille de Laval, mais pour dire que nous étions dans un lieu qui était très marqué, et que dans ce lieu-là, trouver un cimetière de chiens, là aussi je fais toujours une parenthèse pour les amis des animaux dont je fais partie, ça ne me choque pas qu'on enterre un chien, parce que je suis tout à fait capable de faire une sépulture à un animal que j'ai aimé. Mais dans ce lieu-là, trouver des stèles gravées avec le nom des chiens, la date de naissance et de mort de ces animaux, ce qui fait des tombes d'enfants, parce que c'est entre 10, 11, 12, 8 ans, et gravé dans la pierre des sépultures où on peut lire chien du président Laval, chien que le président Laval a tellement aimé, et penser dans un raccourci saisissant à ces milliers, voire ces millions d'enfants qui n'ont pas eu de sépulture et qui sont partis en fumée dans le ciel de Pologne, il est évident que ce choc était déjà suffisant pour me pousser à écrire ce livre. Mais même ce choc, aussi fort fut-il, n'est pas suffisant pour expliquer la démarche. Je pense qu'il y a eu un moteur inconscient encore plus puissant que ce choc-là. Et je crois qu'il s'agissait pour moi de réaliser quelque chose de l'ordre d'un véritable roman familial, c'est-à-dire mettre en scène cette histoire, la reconstruire, lui donner une forme, et surtout, prendre la main, je dirais. C'est-à-dire devenir l'auteur d'une histoire qui m'avait échappé. Et devenir l'auteur, évidemment, c'est maîtriser. C'est un petit peu à l'image de... c'est curieux que le parallèle me vienne à l'instant, mais pour ceux qui ont pratiqué un peu Freud, Freud raconte l'histoire du Forda, qui est un jeu que pratiquait son petit-fils quand sa mère s'éloignait. Il avait découvert un moyen de maîtriser l'absence de sa mère en faisant ce qu'on appelle le jeu de la bobine, c'est-à-dire d'attacher une bobine avec un fil, et dès que sa mère s'éloignait, il jetait la bobine un peu plus loin au-delà de son lit et il la faisait revenir vers lui. Et ce jeu symbolique est d'une certaine façon l'entrée vraiment dans la dimension symbolique pour un enfant. Chacun de nous a dû faire son forda à sa façon. Je dirais que beaucoup plus tard qu'un tout petit, moi j'ai eu besoin de le faire à ma façon en faisant revenir tous ces personnages et en maîtrisant cette histoire. C'est un peu mon forda à moi, ce livre. Il était très important pour moi de pouvoir souligner aussi, et s'il y avait un objectif conscient dans ce livre, c'est aussi de montrer comment un secret, bien sûr, peut marquer la destinée d'un être humain et surtout peser de tout son poids sur la destinée d'un enfant. L'enfant que j'étais, je préfère dire le narrateur du roman, c'est plus simple que de parler à la première personne, surtout en tant qu'analyste, on n'est pas tellement accoutumé à raconter sa propre histoire devant un auditoire, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que ce soit mon histoire, c'est que ce soit l'histoire d'un enfant devenant un adolescent sous le poids d'un secret. Et c'est ça qui a intéressé, je pense, les lecteurs, pas que ce soit le secret de Philippe Grimbert. C'est même pour ça que j'ai appelé ce livre « Un secret », et surtout pas « Mon secret », ni « Le secret ». Et l'histoire démarre avec un épisode dont je suis obligé de vous dire pour montrer à quel point le non-dit peut imprégner la vie d'un enfant, un épisode que j'ai très peu romancé, parce que, sauf à propos du nom, mais parce qu'il s'est réellement produit, c'est-à-dire le fait de découvrir un jouet, un animal de peluche qui a appartenu à un enfant dont vous ignorez l'existence, de vous en emparer en tant qu'enfant, de sentir avec votre instinct d'enfant que cette peluche n'est pas neuve, qu'elle a appartenu déjà à un autre enfant, et de lui donner très précisément le prénom de l'enfant disparu. C'est ce qui m'est arrivé, donc je vais même vous dire que sur le plan romanesque, j'en ai rabattu sur la vérité, parce que dans mon histoire personnelle, cet animal de peluche que j'ai découvert, je lui ai donné le prénom entier du frère disparu. Dans le roman, je me suis trouvé, en tant que romancier, à me dire, si je l'écris comme ça, tout le monde va dire que c'est trop gros. Et il a donc fallu, curieusement, alors que le romanesque d'habitude surajoute des effets dramatiques, il a fallu l'en rabattre, sinon c'était pas vrai. Ça ne paraîtrait pas vraisemblable sur un plan romanesque. Or, il se trouve que c'est ce qui s'est produit. Dire que j'étais enfant habité par le prénom de ce frère disparu, au point de, dès que l'objet paratonnerre, je veux dire, s'est présenté, j'ai précipité la foudre de son prénom. Je dis la foudre de son prénom parce qu'il est évident que dans la famille, réentendre ce prénom a forcément eu un effet assez foudroyant. Mais il était là. Alors là, c'est peut-être pour nous le moment de faire une petite pause et de se demander comment. Je me suis évidemment demandé comment ce prénom est arrivé jusqu'à moi, alors qu'il était tué et que ce deuil massif qui avait frappé ma famille pendant la Deuxième Guerre mondiale avait provoqué un enclos de silence absolu où les noms de tous ceux qui avaient disparu s'étaient précipités. Et il n'en sortait peu, il n'en sortait plus du tout même. Et donc j'ai quand même, moi, exhumé ce nom. Alors il y a plusieurs hypothèses. Bien sûr, on pourrait parler simplement de télépathie, mais j'y crois pas beaucoup. On pourrait parler de transmission d'inconscient à inconscient, j'y crois un peu plus, mais encore, j'ai quand même assez peu d'exemples de ça. Je croirais plutôt, moi, aux vertus du symbolique, c'est-à-dire au fait que quand même ce prénom circule dans le langage courant. C'est quand même quelque chose qui fait partie du langage courant. C'est ce qu'il en est d'ailleurs de tous les contenus d'inconscient. Ils font partie du langage courant, simplement ils sont singuliers pour chacun d'entre nous. Et que simplement, ce prénom, bien évidemment, je l'avais déjà entendu. Ce qui ne veut pas dire que je l'avais entendu prononcé devant moi. J'avais pu l'entendre aussi à une époque où je n'avais pas encore le langage, où je ne parlais pas encore, c'est même la plus probable des hypothèses, et où ce prénom a été comme ça prononcé devant moi, ce qui n'a pas suffi à le charger et à ce point d'électricité. Mais s'il a été prononcé devant moi, c'est évidemment avec une charge émotive extraordinaire, de culpabilité, de douleur, de honte, de rage, très certainement, et que c'est ça qui, chez l'enfant, infance, vous savez qu'un enfant vient de infance, qui ne parle pas encore, sans langage, l'enfant que j'étais, sans langage, a entendu ce signifiant, ça ne veut dire même pas un mot, mais en tout cas cette série de sons associés à une émotion intense. et que plus tard, quand l'occasion m'a été donnée de déposer cette énigme qui était probablement dans la crypte ou dans l'armoire à provisions, comme disait Freud, c'était le moment, bien sûr, de le précipiter ce nom sur l'animal qui avait appartenu à l'enfant en question. C'est sûrement une des modalités de sudation, de transpiration du secret. Autre chose aussi, c'est pour montrer à quel point chez un enfant, chez tout enfant, le poids de ce qui n'a pas été, de ce qui ne lui a pas été dit peut influer sur sa destinée. Je dis un moment dans le roman qu'on ne gagne jamais contre un mort, c'est-à-dire que dans la rivalité, nous le savons tous, soit parce que nous succédons dans la vie amoureuse de quelqu'un qui a disparu tragiquement, et c'est une rivalité insurmontable, parce que le disparu est toujours paré, ou la disparue est toujours parée de toutes les qualités. Il se trouve là que quand on arrive enfant dans une famille où un enfant précédent a disparu, il est difficile de venir rivaliser avec les vertus dont cet enfant s'est paré depuis sa disparition. On tombe sur quelqu'un de plus fragile, ça peut inhiber beaucoup plus loin que le simple désir de compétition avec les autres, ça peut inhiber beaucoup plus que le savoir, puisque j'avais repéré que, par exemple, j'avais hérité de cette histoire une grande difficulté à me situer dans les dates et dans la chronologie et dans les rapports de famille, comme par hasard. Je veux dire que j'avais un père et une mère qui avaient été auparavant beau-frère et belle-sœur, j'avais un demi-frère disparu qui était donc le neveu de celle qui est devenue ma mère. Tout ça avait créé en moi une sorte de complexité qui faisait que quand on me disait un oncle, ça se peut sembler difficile à croire, mais quand j'avais 8, peut-être même un peu plus, j'ose pas le dire, mais assez tardivement, oncle, pour moi, il fallait vraiment que j'affichise à ce que ça pouvait bien vouloir dire dans les rapports de famille. Quant aux dates, n'en parlons pas. À part 1515 et 1789, les autres étaient absolument... Je crois que c'est vrai pour certains d'entre nous quand même, mais grande difficulté à situer l'histoire dans sa chronologie, parce que quand même on avait sauté une génération dans l'histoire. Et voilà, les seuls dommages collatéraux, ils sont très minces. Mais je crois qu'il faut réfléchir au fait que quand cette aventure, cette mésaventure tombe sur des épaules plus fragiles que ne l'étaient les miennes, on peut avoir des effets absolument ravageants, à la fois physiques et psychiques. Alors physique, on l'a vu, on le voit avec un exemple superficiel, au sens où il s'agit de la peau avec le psoriasis, mais je crois réellement qu'un secret, et c'est ce que j'ai essayé de matérialiser de façon romanesque par le creux dans la poitrine que présente cet enfant qui a, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu ce creux dans la poitrine, mais je trouvais que de façon romanesque, il était intéressant de matérialiser le creux, le non-dit du secret par un creux physique dans la poitrine de cet enfant, parce que je crois réellement, et pour avoir fréquenté des enfants atteints de psychose infantile, on voit bien à quel point leur corps n'est pas épargné par le psychique, par la maladie mentale, et que la dimension du secret, du non-dit, du poids que peut représenter un non-dit sur un enfant peut l'amener en effet, même posturalement, à déformer son corps. Quant aux méfaits psychiques, qui chez moi ont été moindres, puisque je vous disais qu'ils n'avaient atteint que certaines zones du savoir, pourquoi ne pas imaginer qu'un interdit de savoir peut aboutir jusqu'à la débilité chez un enfant, c'est-à-dire le refus absolument d'apprendre quoi que ce soit. Il y a de grands blocages scolaires, sur de grands bandes de connaissances qui peuvent tout à fait être atteints de façon frontale par la dimension du secret et provoquer des ravages. Moi, ça n'avait provoqué que des dégâts, mais ça peut provoquer des ravages. Alors donc, en écrivant ce roman, c'est vrai que je pensais que c'était intéressant de raconter la trajectoire d'un secret, c'est-à-dire montrer comment ce secret peut menacer un enfant, au point peut-être de lui faire perdre ses repères, son énergie, de lui faire perdre tout désir de gagner quelque chose dans la vie, ça c'est important. Il se trouve que mon histoire singulière me donnait envie aussi de raconter le destin très singulier de ce secret, c'est-à-dire qu'après en avoir été, comme on dit, la dupe, c'est-à-dire d'avoir été victime de ce secret, j'ai pu avoir accès d'abord à ce secret et de tenir cet accès secret à ceux-mêmes qui me maintenaient dans le secret, c'est-à-dire, ça semble un peu compliqué, mais évidemment, cette situation classique de savoir quelque chose que l'autre ne sait pas que vous le savez, ça c'est très important, et puis un retournement majeur qui me semblait suffisamment exemplaire pour pouvoir être digne d'être élevé à l'état de romanesque, c'est que c'est le changement de camp du secret, c'est-à-dire le moment où le narrateur, c'est une histoire qui m'est arrivée, mène son enquête, arrive à savoir un certain nombre de choses, et en particulier une vérité fondamentale, c'est que l'épouse et le premier enfant de son père ont été assassinés dès leur arrivée à Auschwitz, ce que les documents réunis par les Klarsfeld permettent aujourd'hui, depuis déjà quelques décennies, mais permettent de savoir maintenant, et de pouvoir révéler à son père un secret que lui-même ne connaît pas. C'est-à-dire être tout à coup porteur d'une vérité et la révéler à celui qui vous a tenu secrète, cette histoire même. Et ça me semblait j'étais suffisamment, non pas loin, mais à bonne distance de cette histoire, grâce évidemment à mon parcours analytique, pour pouvoir penser que ça valait le coup d'être raconté autrement que dans le pathos, mais comme une histoire exemplaire, non pas exemplaire de ma destinée, mais de ce que peut devenir un secret quand ça tourne pas mal. Parce qu'aujourd'hui, je dirais d'une certaine façon que je suis plutôt heureux d'avoir vécu cette histoire parce qu'elle se termine bien pour moi et que le succès du livre, d'une certaine façon, c'est-à-dire dire que ce qui a été la part la plus secrète, la plus privée, la plus difficile de mon histoire est devenu l'objet d'un best-seller, c'est pas très joli à dire, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est sur le plan intellectuel assez enivrant. La part la plus privée, la plus secrète de votre histoire est devenue la plus publique. Et c'est source de satisfaction. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi me fait dire parfois que ce cauchemar a viré au conte de fées. D'habitude, c'est l'inverse. C'est souvent les contes de fées qui virent au cauchemar. Mais non, là, ça a été tout à fait le contraire. Alors, je tenais à insister sur l'aspect, je crois qu'on pourra en discuter, sur l'impact de pas seulement des secrets, là on parle du secret, mais au fond, bien sûr, vous le savez, de l'atmosphère familiale, du transgénérationnel, puisqu'on parlait de Maria Torok et Nicolas Abraham, mais Freud lui-même, d'une certaine façon, même s'il n'a jamais appelé ça le transgénérationnel, s'est évidemment intéressé à l'histoire des familles au travers des générations. Mais, comment vous dire, il est très important de noter à quel point, en remontant dans l'histoire d'une famille, on peut noter comment des destinées, qui sont ce qu'on a appelé autrefois au fond des malédictions familiales, vous savez, c'est le bon sens populaire, ou même les légendes nous racontent l'histoire de malédictions familiales avec ces gens qui meurent au même âge, qui se suicident tous au même âge, oui, mais c'est du transgénérationnel, c'est vraiment des condamnations comme ça qui circulent de génération en génération et qui poussent un paratonnerre, j'emploie souvent cette image parce qu'elles sont juste un paratonnerre dans une famille, un membre d'une famille, à recevoir de plein fouet ce que d'autres générations ont concocté à leur insu. J'ai eu comme ça, quand on parlait de ce qu'il fallait dire ou ne pas dire, il est toujours important de dire à un enfant de quoi il est issu, de quelles histoires il est issu, de quel drame il est né, pourquoi pas, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas lui dire, c'est ce qui concerne notre vie intime, notre sexualité, ce qui nous appartient à nous, dans notre intimité. Mais en revanche, ce qui peut l'atteindre lui, ça c'est quelque chose dont il a le droit d'être informé, et dont nous avons le devoir, je pense, de l'informer. Je pense pour ça à deux choses. Parce qu'on a souvent peur de dire à un enfant des choses dramatiques en pensant qu'il va en être bouleversé. On ne se rend pas compte qu'en lui disant pas, il n'est plus bouleversé par les choses confuses qu'il perçoit et de ce qu'il ne lui a pas dit. J'ai deux exemples quant à ce qu'il faut dire. J'ai un petit garçon dont le grand-père s'était suicidé et dont les parents, dont la mère en particulier, n'arrivaient pas à ce drame dont la mère n'arrivait pas à parler. D'abord un suicide générateur de culpabilité terrible dans des familles, parce que tout le monde se demande toujours qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Et comme la culpabilité est génératrice de secrets, évidemment, ce suicide est tenu secret. Et pour vous dire comment suinte le secret, ce petit garçon passait sa vie, n'exagère rien, mais enfin, régulièrement demandait à sa mère, non pas est-ce qu'il est mort grand-père, mais comment il est mort grand-père. Ce qui est une question incroyable qui porte sa réponse en elle-même. Un enfant demande rarement comment il est mort, mais quand est-ce qu'il est mort. Voilà, et il est évident que apporter une réponse à cette question comment il est mort grand-père, ça n'est pas apporter, encore une fois, la foudre chez ce petit garçon, c'est au contraire soulager cette tension que la question révèle, bien évidemment. Et puis, bien sûr, une autre histoire, mais elle est assez classique, c'est celle d'un petit garçon, d'un jeune garçon adolescent qui passait sa vie dans les commissariats à faire des bêtises qu'il amenait toujours devant la police et à qui sa famille avait soigneusement caché que son grand-père avait fait de la prison pour des raisons de braquage variées et que la honte familiale avait tenu secrète et que ce petit-fils, c'était le petit-fils éclus, ça, je ne sais pas si on peut systématiser, ça saute une génération, mais en tout cas, c'était le petit-fils qui allait à la recherche de la vérité sur son grand-père, parce que bien sûr, personne ne l'avait sur la trajectoire délinquante du grand-père. Il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est peut-être de vous lire ce petit passage de Freud qui m'a beaucoup troublé. Je l'ai lu après, bien sûr, après avoir écrit, enfin bien sûr, bon, c'est idiot, je l'ai lu quand je faisais mes études, mais je l'ai relu après avoir écrit Un secret, et j'étais très frappé par ce que Freud dit à propos de ce qu'il appelle les constructions, la construction en analyse. Construction, c'est-à-dire comment on reconstruit d'une certaine façon une histoire quand le sujet en analyse a oublié un certain nombre d'épisodes de sa vie, de son passé, puisque Freud, dans les débuts de la psychanalyse, pensait qu'il fallait évidemment retrouver la chronologie des événements qui avaient marqué la vie d'un sujet. Je vous lis juste ce petit passage, parce que vous verrez à quel point c'est troublant quand on a écrit, comme moi, un roman où on essaye de remettre en forme une histoire familiale qu'on a traversée, et que la forme du roman vous paraît la plus adaptée, parce que j'ai toujours eu envie d'écrire et j'ai toujours aimé écrire, pour ça que cette forme s'est imposée à moi. Sinon j'aurais écrit un récit ou un essai théorique sur le secret de famille. Nous savons tous que l'analysé doit être amené à se remémorer quelque chose qu'il a vécu et refoulé. Et les conditions dynamiques de ce processus sont si intéressantes qu'en revanche, l'autre partie du travail, l'action de l'analyste, est reléguée à l'arrière-plan. De tout ce dont il s'agit, l'analyste n'a rien vécu, ni refoulé. Sa tâche ne peut pas être de se remémorer quelque chose. Quelle est donc sa tâche? Quelle est donc la tâche de l'analyste? Il faut que, d'après les indices échappés à l'oubli, il devine, ou plus exactement, il construise ce qui a été oublié. C'est ce que dit Freud, voilà. D'après les indices. Freud a souvent des métaphores comme ça, il dit aussi que, comme la métaphore des ruines, Pompéi, formidable, à partir des ruines, on va redécouvrir ce qu'était la ville autrefois. Le processus analytique, il le décrit un peu de la même façon. La façon et le moment de communiquer ces constructions à l'analysé, les explications dont l'analyste les accompagne, c'est là que se constitue la liaison entre les deux parties du travail analytique, celle de l'analyste et celle de l'analysé. Alors ce qui m'avait troublé en lisant ce passage, c'est-à-dire que je me disais, mais au fond, en écrivant ce livre, j'étais à la fois dans la position de l'analysé et de l'analyste. Avec ce regard différent que j'avais sur ma propre histoire, et le fait que j'étais analyste, et l'analysé que j'étais écrivait son histoire. Son travail de construction, ou si l'on préfère de reconstruction, travail de l'analyste, non, présente une ressemblance profonde avec celui de l'archéologue, qui déterre une demeure détruite et ensevelie, ou un monument du passé. Au fond, il lui est identique, à cette seule différence que l'analyste opère dans les meilleures conditions et dispose de plus de ressources en matériaux parce que ses efforts portent sur quelque chose qui est encore vivant et non sur un objet détruit. Et peut-être encore pour une autre raison. Cependant, de même que l'archéologue, d'après des pans de murs restés debout, reconstruit les parois de l'édifice, d'après des cavités du sol, détermine le nombre et la place des colonnes, et d'après les vestiges retrouvés dans les débris, reconstitue les décorations et les peintures qui ont jadis orné les murs. C'est du joli Freud, on est tout à fait dans l'hypothèse de la construction d'un roman. Par exemple, en ce qui me concerne, les pans de mur, pour moi, ça a été l'histoire d'Anna. Enfin, pour ceux qui auraient lu le roman, l'hypothèse familiale quant à l'arrestation d'Anna a toujours été, la seule chose qu'on ait pu m'en dire, c'était qu'elle avait oublié ses vrais papiers au fond de son sac. Et donc, ses vrais papiers avec le tampon infamant juive. Et pour montrer, bien sûr, si elle devait passer la ligne de démarcation, les faux papiers, où elle devait s'appeler Madame Josette Durand, chose comme ça. Et là, elle a été donc fouillée. marqué au passage de la ligne, et puis c'était probablement des gendarmes français, disons, ou alors allemands, qui ont découvert ces vrais papiers au fond de son sac. L'hypothèse donc familiale, Laure Thionnet, elle avait oublié ses vrais papiers au fond de son sac. J'ai donc fonctionné avec ça pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai écrit le roman. Et à ce moment-là, voilà, les pans de mur, moi, c'était, elle a oublié ses vrais papiers au fond de son sac. Puis tout à coup, je me suis dit, comment Philippe Imbert, psychanalyste, qui ne se dit pas qu'un oubli, c'est un acte manqué, c'est quand même curieux. Je n'ai pas voulu du tout évoquer l'hypothèse d'un acte manqué. Pour moi, c'était un oubli. Tout à coup, c'est devenu un oubli banal. À cette époque-là, passer la ligne de démarcation en oubliant ses vrais papiers au fond de son sac, si ça n'est pas un acte manqué et suicidaire, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc ça, il a fallu du temps pour que je puisse me poser cette question de cette façon. Et puis, que ce soit vrai ou pas, je me suis dit, après tout, en tant que romancier, cette fois-ci, je vais faire de cet acte manqué un acte réussi, c'est un acte volontaire. Et dans mon roman, Anna dépose ses vrais papiers en face de l'officier allemand et d'une certaine façon, se livre à l'ennemi pour sortir du jeu. C'est une interprétation. Et là, on est, je dirais, du côté de la vérité beaucoup plus que de l'exactitude. Est-ce qu'elle l'a réellement fait? Je n'en suis pas sûr, bien que j'en ai maintenant, je dirais, l'intime conviction après avoir écrit ce livre, mais il se trouve quand même qu'elle l'ait fait ou non, le fait d'avoir oublié ses vrais papiers est un acte manqué. Un acte manqué, c'est un acte qui réalise un désir. De quel désir peut-il bien s'agir si on oublie ses vrais papiers au fond de son sac? Eh bien, c'est le désir qu'on les y découvre. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allé donc en tant que romancier plus loin en lui faisant donner ses papiers directement, mais on est dans cette logique-là. À partir de ces petits vestiges qui sont, elle a oublié ses vrais papiers au fond de son sac. Alors, de la même façon, le premier regard de Maxime et de Tania, il a fallu que je me livre, moi en tant qu'analyste, à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la mise en scène de la scène primitive au sens le plus strict du terme, puisque à la fois il m'a fallu imaginer et écrire la première rencontre de mes parents et même leur première nuit d'amour, ce qui est une position assez complexe en tant qu'analyste, d'avoir affronté comme ça la scène primitive d'une façon aussi crue. Mais là aussi, j'avais les vestiges, c'est quoi? C'est le goût que je connaissais de Maxime pour les jolies femmes, le fait que Tania, celle que j'ai appelée Tania et qui fut ma mère, était une très belle femme et qu'il était évident qu'il y avait un moment de... vais-je encore oser la métaphore de la foudre, mais enfin quelque chose de cet ordre qui s'est passé entre eux, à quel moment, probablement au moment du mariage de Maxime avec la sœur du mari de Tania. C'est à ce moment-là, probablement, parce que ça je ne l'ai jamais su et je ne l'ai jamais demandé. Là aussi, je vous parlais de l'inhibition de la curiosité qui peut se produire chez un enfant qui sent qu'il y a un secret de famille et qui ne veut pas faire de mal à ses parents, qui ne veut pas aller fouiller dans les blessures, inhibition qui peut mener très loin parfois. Et bien à partir de là, pourquoi ne pas inventer une histoire où le premier regard émerveillé de Maxime sur Tania se produira pendant le mariage. Alors, continuons sur Freud. De même, l'analyste tire ses conclusions de bribes de souvenirs, des associations ou des déclarations actives de l'analysé. Vous voyez, je suis à la fois l'analyste et l'analysé, je produis les bribes de souvenirs et l'analyste, donc, en tant qu'analysé, et l'analyste que je suis en fait quelque chose de romanesque. Alors, mais à mon avis, le terme de construction est le plus approprié. Le terme d'interprétation se rapporte à la façon dont on s'occupe d'un élément isolé du matériel, une idée incidente, un acte manqué. Mais on peut parler de construction quand on présente à l'analysé une période oubliée de sa préhistoire. Par exemple, en ces termes. Alors écoutez bien, parce que c'est comment Freud procédait. Ça nous fait un peu dresser les cheveux sur la tête aujourd'hui, mais enfin, voilà comment Freud procédait. Jusqu'à votre énième année, vous vous êtes considéré comme le possesseur unique et absolu de votre mère. À ce moment-là, un deuxième enfant est arrivé, et avec lui une forte déception. Votre mère vous a quitté pendant quelque temps, et même après, elle ne s'est plus consacrée à vous exclusivement. Vos sentiments envers elle sont devenus ambivalents, votre père a acquis une nouvelle signification pour vous, et ainsi de suite. Voilà comment Freud assénait la vérité de leur désir à ses patients. Bon, c'est quand même la préhistoire de la psychanalyse. Alors, je termine sur cette citation freudienne à propos de ce que je pourrais appeler mon intime conviction d'avoir découvert la vérité de cette histoire à travers la fiction romanesque, ce que je vous disais à propos d'Anna par exemple. J'ai inventé cet épisode, et après l'avoir inventé, j'ai eu le sentiment d'être allé droit sur la vérité de ce qui s'était passé. Un seul point demande à être examiné et élucidé. Le chemin qui part de la construction de l'analyste devrait mener au souvenir chez l'analysé. C'est-à-dire que Freud pense que si on propose une construction assez convaincante, l'analysé va dire « Ah mais oui, c'est vrai, ça y est, ça me revient, mais oui, c'est comme ça, c'est passé. » Bon. Très souvent, on ne réussit pas à ce que le patient se rappelle, le refouler. En revanche, c'est ça qui est amusant quand même, et très troublant, une analyse correctement menée le convainc fermement de la vérité de la construction, ce qui, du point de vue thérapeutique, a le même effet qu'un souvenir retrouvé. Alors, ce qui est joli dans cette phrase, on peut la discuter sur le plan théorique, hein, mais bien sûr, c'est Freud, il y a deux siècles, mais quand même, je dirais que moi, je l'ai vécu de façon absolument physique, charnelle, la vérité de la construction. C'est-à-dire que je me suis convaincu, encore une fois, à la fois en position d'analyste et d'analysé, je me suis absolument convaincu de la vérité de ma construction. À tel point même, et ça peut vous paraître un peu bizarre, mais que parfois, quand je repense à ma famille, à l'histoire de ma famille, c'est le roman qui me revient. C'est pas les souvenirs de qu'on a pu me raconter ou que je peux avoir. C'est ce que j'ai écrit. Autrement dit, là, je suis vraiment dans le cas de figure où je suis fermement convaincu de la vérité de ma construction. Au point qu'elle est devenue, je dirais que ce roman est devenu mon souvenir. Voilà. Et donc, une autre chose dont je voulais vous parler également, c'est le thème du fantôme. Je trouve que c'est intéressant de... c'est un terme que j'emploie souvent, j'aime beaucoup les fantômes, je crois beaucoup aux fantômes, pas à ceux, bien sûr, qui se promènent avec des sphères et des chaînes, mais quand même aux revenants. Je trouve que l'imagerie populaire est formidable en ce sens, en imaginant que les revenants sont les morts à qui on n'a pas rendu tous les honneurs, sont ceux envers qui on a une dette et qui viennent réclamer leur dû. C'est tellement vrai psychiquement qu'il s'agit bien de ça que je crois qu'on peut vraiment croire aux fantômes. À ceci près qu'il ne faut pas imaginer, comme dans un roman de fantastique, qu'ils vont revenir en effet hurler à notre fenêtre, mais ils hurlent très fort quand même dans nos cryptes et dans notre inconscient. Écoutez, je pense que je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire. Si on continue par débattre un peu, peut-être que ça me permettra de retrouver des choses que j'aurais aimé vous dire et que j'ai oubliées. En tout cas, merci de votre attention.
Merci infiniment, Philippe Grimbert, de cette très belle intervention. Alors, difficile aussi d'intervenir après vous. Je voulais tout de même vous dire que se trouve confirmé effectivement ce qui avait retenu tout à fait mon attention par rapport à votre roman, c'est que finalement, dans le cadre de ce séminaire, et j'insiste d'ailleurs, c'est votre roman, hein, c'est le sous-titre d'ailleurs que porte le livre, voilà, c'est un roman qui avait retenu particulièrement mon attention, en fait en tant que récit autobiographique, effectivement, celui alors particulier d'un psychanalyste écrivain ou d'un écrivain psychanalyste, hein, comme il vous plaira. En tout cas, le récit de quelqu'un auquel on peut attribuer en tout cas peut-être un art tout particulier de raconter des événements, vraiment une construction narrative, ou simplement un art un peu particulier, et vous venez de le montrer, de raconter sa vie. Alors je voudrais rappeler, vous l'avez fait tout à l'heure, mais rappeler peut-être plus précisément le succès quand même considérable de ce livre, et en particulier, donc livre qui a déjà une belle longévité littéraire, je crois que c'est important, livre donc dont le succès a été couronné par le prix Goncourt des lycéens. Et vos interventions, justement, nombreuses, en particulier dans les collèges, auprès de ce jeune public, attestent certainement de l'intérêt, peut-être que vous avez porté à cette distinction. Et puis, aussi, justement, je crois que ce doit être aussi notre intérêt à nous, dans la mesure où, en tout cas celui des professionnels qui sont concernés, évidemment, par l'enfance et l'adolescence. Et donc, le livre... prolonge donc ses effets, si on peut dire, vos interventions, elles montrent, par des conférences, par des débats. Et on pourrait dire que, je crois, enfin, vous tenez vraiment le rôle de passeur, à la fois, je dirais, dans toutes ces acceptions, c'est-à-dire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais un passeur, j'ai envie de dire, à la ville comme à la scène, puisque, comme à l'écran, hein, puisque vous tenez précisément en tout cas c'est le rôle qui vous échoit, voilà, dans l'adaptation de votre roman par Claude Miller au cinéma, puisque vous êtes effectivement le passeur qui fait franchir la ligne de démarcation au personnage. Hein, donc c'est tout à fait essentiel. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. On peut signaler, à mon avis, aussi un roman, hein, qui a précédé Un secret. Ce roman, c'est La petite robe de Paul, qui est paru en 2001, où finalement suintaient déjà, hein, des secrets enfouis. Alors je vous cite là, des secrets enfouis par l'infranchissable et obstiné silence des parents, et où apparaissaient des objets énigmatiques qui bouleversent les existences, comme par exemple, je vous cite toujours, des spectres poussant les battants du placard, incapables de trouver le repos, exigeant leur dû. Bon, alors on est là donc au cœur du sujet, vous l'avez rappelé. Donc je ne vais pas reprendre les éléments du roman, mais tout de même rappeler que c'est le roman s'ouvre par un titre, me semble-t-il, ô combien psychanalytique, à savoir l'oxymore du frère du fils unique. Hein, le livre s'ouvre par fils unique, j'ai longtemps lu un frère. Donc, ce qui nous met tout à fait au cœur du sujet. Alors, vous venez de nous relater, je dirais, à la fois votre histoire singulière, qui rencontre aussi une des plus grandes tragédies de l'histoire, hein. En tout cas la mise à jour de la vérité, ou d'une certaine vérité, vous l'avez dit, la lente exsudation de ce secret, et puis la non moins longue, hein, vous avez insisté beaucoup là-dessus, élucidation et reconstruction dans et par le récit. Alors il faut, il me semble, y entendre peut-être comme l'a défini Maurice Blanchot, à la fois... l'histoire finalement d'une quête ouverte par l'écriture, hein, une écriture qui rend compte finalement du parcours d'un sujet, enfin, du sujet, de l'analyste et de l'écrivain. Hein. Pérec, dans W ou Souvenirs d'enfance, se rappelait l'inscription du cheminement de mon histoire et l'histoire de mon cheminement. Alors vous l'avez dit, le roman, donc en premier lieu, c'est celui de l'enfance du narrateur, nous confronte en tout cas à la version potentiellement pathogène, c'est-à-dire toxique du secret, qui renvoie donc à un non-dit parental, ce non-dit entraînant une souffrance, qui fait de son porteur, donc comme l'a aussi rappelé Serge Tisseron, en fait un sujet clivé. Alors on peut se référer, vous l'avez mentionné, effectivement au concept par exemple de fantôme, de crypte, aux visiteurs du moi aussi, pour reprendre là en tout cas des ouvrages fondamentaux en psychopathologie, et évidemment à la notion de transmission intergénérationnelle. Alors on l'a dit, l'enfant souffre beaucoup, enfin souffre dans son corps. D'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de références effectivement au corps, hein, dans votre roman, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup question du corps, donc évidemment c'est un enfant qui est porteur de stigmates, qui fréquente d'ailleurs beaucoup les consultations médicales. Et cette réalité insue, l'enfant en sait quelque chose, qui ne s'exprime en tout cas dans un premier temps que par le symptôme, c'est-à-dire ce à quoi finalement sont confrontés, effectivement, on l'a dit tout à l'heure avec les exemples cliniques, les praticiens s'occupant d'enfants. Que ce symptôme se réfère d'ailleurs à l'enfant lui-même, ou bien que l'enfant, que ce soit l'enfant qui soit porteur finalement de la souffrance d'un autre auquel il est identifié. Hein. Donc l'enfant souffre aussi psychiquement, bien évidemment. Et vous avez rappelé, enfin, finalement, comme dans la situation de deuil, hein, que finalement cet objet continue de vivre psychiquement, hein, et que le secret crypté, enseveli, fait retour dans le corps de l'enfant. Alors c'est là aussi évidemment quelque chose qui nous est connu dans la symptomatologie, on l'a vu également, hein, dans les registres d'ailleurs aussi bien de la névrose que de la psychose. Alors il me semble que la particularité peut-être dramatique de votre histoire, c'est que par exemple, l'invention du double, hein, le frère en particulier, qui objective, en fait, on pourrait dire de manière hallucinatoire, donc effectivement le non-dit parental, eh bien, ce double a vraiment existé. Donc c'est quelque chose de effectivement, tout à fait particulier. Vous l'avez dit, l'enfant lutte contre un mort. Alors, la question que je voulais vous poser, mais vous avez répondu tout à l'heure, c'est effectivement avant de raison de croire aux fantômes, enfin, ou si ce n'est aux fantômes, du moins aux revenants, vous avez que oui. Donc, hein. Alors, de plus, il me semble que le secret aussi qui prend appui sur la culpabilité des parents est évidemment aussi doublé d'une référence historique, là, celle de la déportation, hein, qui a laissé des disparus sans sépulture, donc, ce qui est un point évidemment fondamental. Alors, une question peut-être, je me dirais, est-ce que cela finalement ne confère pas au roman familial, enfin, au sens effectivement freudien, vous l'avez rappelé, au sens où l'enfance construit une histoire pour surmonter, vous l'avez dit, une première déception, hein, ou en tout cas une crise grave. Donc d'ailleurs, des versions, on peut dire qu'il y a des versions de ce roman familial particulièrement explicites dans votre livre. Donc est-ce que donc ça ne confère pas à ce roman familial finalement une double dimension dans l'histoire du secret, à savoir la version un peu habituelle, je dirais, classique du roman familial, mais aussi celle peut-être de recouvrir aussi cette tragédie. Donc, peut-être c'est une question.
Oui. Oui, parce qu'après j'ai oublié. Oui. C'est non seulement le roman familial deux fois, oui, reconstruction classique de l'enfant, d'une histoire familiale idéale, le roman familial où le père et la mère au fond se connaissent depuis toujours, parce que souvent les enfants ont le fantasme que leurs parents ne se sont pas rencontrés, mais qu'ils se connaissent depuis toujours. Il y a un moment où l'enfant commence à prendre conscience que non, mais le narrateur en effet commence par imaginer cette rencontre idéale des deux parents magnifiques, le sport, la naissance de l'enfant, quelque chose. C'est quasiment en effet le roman familial tel qu'on l'entend dans les vieux récits, c'est-à-dire je suis né d'un couple royal. Voilà. Et une deuxième fonction de ce roman familial, indépendamment de satisfaire au premier degré la fantasmatique de l'enfant et de trouver une explication du monde qui l'entoure et de l'embellir surtout, la deuxième explication, c'est en effet de recouvrir quelque chose, un contenu insupportable qu'il pressent, puisque ce contenu évidemment transpire, et que pour le recouvrir, quoi de mieux qu'un roman familial qui d'une certaine façon viendra comme une couverture à fleurs, en couvrir un champ de cadavres. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Je dirais même qu'il y a une troisième et quatrième, voire, dimension du roman familial, le fait que je l'écrive vraiment comme un roman. C'est-à-dire que là ça rajoute une dimension encore. On aurait pu en effet écrire un secret, en dessous il y a écrit roman, entre parenthèses familial. Oui, c'est vrai. Et puis il y a presque une quatrième dimension si on se réfère à ce que Marthe Robert dit du roman, c'est-à-dire roman des origines, origine du roman. Je veux dire, il y a peut-être une troisième phrase, mais voilà. Roman des origines, origine du roman, où elle postule que tout roman, au sens romanesque, vraiment tout écrivain écrit toujours quelque chose de l'ordre du roman familial. Et là, donc, je me situe encore une quatrième fois dans le roman familial. Donc il y a vraiment, vous avez raison de le pointer, parce que c'est au moins par quatre fois. En miroir, comme la vache qui rit avec les bouts d'oreilles en forme de vache qui rit, cet ordre-là. Vous avez relevé, j'en profite pour ce qui me vient à l'esprit, vous évoquiez aussi, je repensais à Tisseron à propos de. Il avait une phrase qui m'a beaucoup frappé quand on se demandait au fond qu'est-ce qu'il faut transmettre ou pas du secret familial. Je crois qu'il a une phrase très juste quand il dit qu'on peut en être le gardien, mais il ne faut pas en être le prisonnier d'un secret. C'est une belle formule parce qu'elle parle bien. Je crois que quand on perçoit que quelqu'un est gardien d'un secret, ça peut être une position tout à fait honorable, vivable et non nuisible. Mais quand on est prisonnier, évidemment, vous comprendrez tout de suite qu'il s'agit d'autre chose. Les corps. Oui, la dimension du corps est très très présente. J'ai compris dans l'après-coup, vous savez, les rencontres avec les lecteurs, avec les jeunes lecteurs, puisque vous avez la gentillesse de rappeler que j'avais eu ce formidable prix Goncourt des lycéens, qui est une récompense formidable, d'abord parce que le public adulte aime beaucoup ce prix, il fait une grande confiance aux lycéens quant au choix des prix Goncourt des lycéens, mais aussi parce que ça m'a permis de rencontrer des jeunes gens de vraiment de 13 à 18 ans, et peut-être parfois même plus jeunes, que leur professeur avait amené à ce livre, et qui ont pris beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, et j'étais au départ surpris en me disant que d'ailleurs, c'est fort heureux. Je n'ai jamais pensé aux jeunes gens en écrivant ce livre. Je n'ai jamais écrit ce livre en me disant, tiens, je vais faire ce livre, ça va plaire aux jeunes gens, je vais faire un livre la littérature jeunesse sur la Deuxième Guerre mondiale, pas du tout. En même temps, dans l'après-coup, j'ai compris que, bien sûr, le narrateur lui-même étant un jeune enfant, adolescent, et beaucoup d'adolescents pouvaient s'y retrouver. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans les rencontres, c'est que systématiquement, à la fin de chaque rencontre, deux, trois adolescents ou adolescentes s'attardaient pour laisser passer les autres et me laissaient soit une petite lettre, soit me demandaient s'ils pouvaient avoir mon email parce qu'ils avaient quelque chose à me raconter sur l'histoire de leur famille. Et c'était très, très touchant et ça a toujours été suivi d'effets très jolis de qui déposaient là quelque chose d'un secret de famille dont ils avaient besoin de parler. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et le courrier que j'ai reçu, puisque ce livre m'a valu un grand, grand nombre de courriers, et beaucoup de courriers m'ont confirmé, quand on dit « je le dis en toute modestie », ça veut dire qu'on est très immodeste, enfin, je ne sais pas comment le dire, je le dis parce que ça s'est produit, voilà, c'est qu'il y a eu, ce livre a eu un effet thérapeutique sur beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit en me disant « j'ai enfin pu dire telle ou telle chose à ma fille, à mon fils, à mon père, parce que je me suis aperçu par le biais de ce livre que ce qui est tué peut tuer. » On est vraiment de ce côté-là et que voilà, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre puisse avoir, et heureusement que je n'ai rien calculé de cet ordre. C'est-à-dire que tout ce qu'on me fait découvrir sur mon propre livre me fait me féliciter de n'avoir rien calculé, d'avoir juste écrit ce que je devais écrire pour moi. C'était très important. Les lecteurs, donc les jeunes gens, me font souvent remarquer des choses que je n'ai pas. J'ai beaucoup de mal à leur dire, vous savez, vous avez raison quand vous me faites remarquer cette chose, vous avez parfaitement raison, mais je n'y avais pas pensé. Ça, ils n'arrivent pas à comprendre qu'un auteur puisse avoir écrit quelque chose à son insu. Alors bon, je n'ai pas écrit le livre à mon insu, mais il y a des correspondances dans le livre qui se sont faites à mon insu. Ça ne veut pas dire qu'ils les inventent, elles y sont. Et le livre, d'une certaine façon, m'a dicté une certaine logique à laquelle je me suis plié. Le livre m'a commandé. Une fois qu'il avait trouvé sa logique, sa vitesse de croisière, il m'a commandé un certain nombre de choses. Et on me fait remarquer des choses. Je vous l'ai dit juste une, par exemple, qui m'a beaucoup surpris. C'est drôle et ça ne peut être que vrai. C'est pas un psychanalyste qui va dire le contraire. Un jeune lecteur m'a dit Maxime et Tania, est-ce que c'est le vrai nom de vos parents? J'ai dit non, ce sont des prénoms romanesques, Maxime et Tania. Mes parents avaient des prénoms plus banalement années 50 que ça. Mais Maxime et Tania, c'est des prénoms que j'ai inventés. Il me dit c'est drôle quand même parce que leurs initiales, c'est précisément les deux lettres qui ont été changées à votre nom de famille, le M et le T. Alors évidemment, je lui ai dit, mais vous avez raison, mais j'y avais jamais pensé à le dire aussi. Forcément, vous y avez pensé, puisque. Non, c'est ça que j'appelle une logique inconsciente qui vous amène à le M et le T qui sont devenus un N, enfin le N et le G qui sont devenus un M et un T, Maxime et Tania. Oui, la raison, c'est là que je veux dire que la logique du livre se fait parfois aussi à votre insu, certaines correspondances. Les corps, justement, c'est à ce propos que quand on m'a parlé des corps, j'ai soudain pris conscience du fait que j'avais envie de parler du corps, parce que je voulais que ce livre, parce que j'avais envie de rendre un corps, non seulement un nom, un destin, mais aussi un corps à ceux qui en avaient été privés. On les avait privés de leur corps, au point même de les brûler, de réduire leurs ombres poussières pour qu'il ne reste rien de ce qu'ils avaient été charnellement. On avait effacé leur nom de toutes sépultures possibles, donc il fallait rétablir quelque chose. Ça a été fait, heureusement. Il y a le mur du mémorial, il y a le travail des Klarsfeld. Mais dans mon modeste travail à moi d'hommage, de tombeau, vraiment, tombeau au sens littéraire français, où c'est à la fois une sépulture et un hommage, je pouvais à la fois rendre un nom, bien sûr, à ces personnes, à ces personnages, ces personnes dont j'ai fait des personnages, leur redonner une destinée, un désir, une vie, et également leur rendre un corps. Et pour ça, il fallait que j'insiste sur la dimension du corps. Ce à quoi je n'avais pas pensé, et ça, c'est encore une fois la logique du livre qui se fait à votre insu, c'est que le français est peut-être une des rares langues, sinon la seule, où le mot corps veut à la fois dire le corps vivant et le cadavre. Et on a trouvé un corps. Quand on a trouvé un corps, c'est pas une belle endormie. Hein. C'est un cadavre. Et je trouvais intéressant que le culte du corps de Maxime et Tania, que ce corps glorieux qu'ils affichent en permanence pendant tout le livre, vienne de recouvrir les corps. Le corps de tous ceux qui font ces pyramides et ces montagnes et qui ont été oubliés.
Par rapport à cette question du corps, il y a aussi un retournement tout à fait décisif dans le roman qui, d'ailleurs, passe par un corps à corps. C'est-à-dire, c'est le moment où l'enfant, enfin l'adolescent en fait, frappe son camarade de classe au moment de la projection du film sur l'écran. Je trouve que c'est absolument décisif, puisque c'est ce qui permet après la révélation.
C'est ce qui permet la révélation. Et c'est, vous avez raison de remarquer ce basculement. Je trouve qu'il est intéressant. C'est un petit peu comme ce qu'on pourrait appeler un moment crucial en analyse. C'est le moment où une interprétation ou un moment où une prise de conscience va carrément et radicalement changer votre destinée. Ça peut se jouer en 3 secondes. Et c'est ce qui se passe pour le narrateur. Et j'ai souvent tendance à dire que pour le narrateur, pour moi peut-être, en tout cas pour le narrateur, disons-le, ce coup de poing n'est pas du tout une apologie de la violence, et n'est pas un passage à l'acte, mais un acte qui va lui permettre de sortir de sa position de sujet soumis, position dans laquelle il serait peut-être resté si au moment, j'ai insisté sur le suspense de cette scène où le chef de classe, devant lequel évidemment le narrateur est complètement inhibé et en même temps soucieux et désireux d'une amitié, d'une complicité, ce serait un honneur pour lui que d'être complice avec le chef de classe. Or, le chef de classe est en train de rire face au spectacle du film, disons, Nuit et brouillard, en tout cas un film sur les camps de concentration, et le narrateur commence à rire avec ce chef de classe, parce que le chef de classe a eu le geste magnifique de le pousser un peu du coude, et pour le narrateur c'est une complicité formidable. Et il y a ce moment de bascule où il rit jusqu'au moment où tout à coup il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de rire avec les bourreaux. Et là, ce retournement se manifeste par son poing qu'il envoie dans la figure du chef de classe en question, cette fois-ci sans souci de savoir s'il sera vainqueur ou pas, ni de ce qui va en résulter, de saignement de nez ou de coquard. Et ce moment-là, qui est juste une, on pourrait dire, c'est juste une bagarre entre deux gamins dans une salle de classe. Or, c'est un moment de bascule absolument décisif pour la destinée de cet enfant qui va enfin prendre sa destinée en main et ne plus se soumettre à l'autorité du plus fort, ou ne plus rire avec les bourreaux, ne plus ricaner simplement pour le plaisir d'être complice avec quelqu'un dont il estime qu'il lui est tellement supérieur. Et ça, c'est des moments de bascule absolument fondamentaux.
D'ailleurs, justement, ce qui permet la levée du secret, là, comme vous venez de le rappeler, c'est aussi l'irruption de la réalité extérieure. C'est-à-dire que, et on peut se demander, moi je me suis interrogée sur le statut de l'image aussi par rapport à cela. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a une première projection, vous le rappelez dans le livre, qui est familiale. Hein, c'est-à-dire où effectivement des documents passent à la télévision, qui suscitent d'ailleurs le départ du père et certaines gênes, en tout cas le mutisme de la mère. Mais la deuxième fois, si je puis dire, c'est vraiment la bombe. C'est-à-dire que là, d'abord, cette projection se fait de manière collective. Et donc, et aussi comme événement, peut-être qui vient rompre, je dirais, le cercle de l'intimité strictement familiale, et qui vient donner quand même consistance, et qui sert sans doute de révélation, là, à ce secret.
Oui, et qui pousse le narrateur tout à coup à se situer, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'écran que Anna et Simon, en train de basculer dans une fosse remplie de cadavres, et que là, tout à coup, cette irruption, en effet, c'est même plus de la réalité, c'est du réel brut. Vraiment, le pousse à une décision, un acte décisif, oui, absolument.
Et avec probablement aussi, par rapport à l'image, il y a sans doute un nouage là qui s'effectue entre finalement, on pourrait dire, une vision un peu hallucinatoire, je dis nouage au sens de Lacan, finalement, une vision un peu hallucinatoire, c'est-à-dire ce qui était de l'ordre des fantasmes de l'enfant, qui rencontre une image, donc une réalité extérieure véhiculée par cette image, et qui permet sans doute de passer, de pouvoir accéder après au symbolique. C'est-à-dire on passe sans doute de l'hallucinatoire au symbolique.
Oui, vous avez raison. J'y avais jamais pensé dans ces termes, encore une fois, mais vous avez raison. C'est le moment de louage de l'imaginaire, du réel et du symbolique. C'est-à-dire que le réel est là, dans ces images qui sont vraiment. Non, c'est plus du reportage, c'est plus de la réalité, c'est du réel brut, c'est la chose, das Ding, disons en allemand, c'est la chose. Et puis, voilà que ce jeune narrateur, son imaginaire est confronté à ce réel-là, et ça lui permet de. J'allais dire, non pas de commettre, mais d'accomplir un acte symbolique qui est celui de se libérer de son asservissement.